Fabrice Duez, bonjour. Donc, très heureux de vous accueillir à Charleroi dans le cadre de l'avant-première de votre film qui sort le 22 janvier, Mal d'Aurore. Julie et Mélissa disparaissent le 24 juin 1995. Dutroux est arrêté le 13 août 1996. Les corps sont découverts le 17 août. Vous aviez à l'époque 23 ans. Quel souvenir gardiez-vous?
Je garde un souvenir très puissant. De cette affaire, c'est comme le 11 septembre, en fait. On sait exactement où on est et dans quelle disposition on était. C'est un spectacle terrible à répétition. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de moments où on a été tous saisis. Moi, j'étais très jeune, j'avais des certitudes, en fait, sur le monde. Je m'apprêtais à démarrer ma vie d'adulte. On pense que la justice fonctionne, on pense que la société s'irrigue correctement, que la justice fait son travail et que la police fait son travail. Donc, on est tous témoins, moi le premier à cette époque-là, forcément, puisque je suis frappé par l'indigence, la médiocrité, la rage, la honte, comme beaucoup de gens. Et très vite, je me dis que... Parce que je sais que je vais embrasser ce métier de cinéma. Je me dis que ça ferait un film incroyable, puisque ces dysfonctionnements sont tellement invraisemblables. Je suis le témoin fasciné de la médiocrité de la commission d'enquête, comme tout Belge à l'époque. On est tous fascinés par ce spectacle affligeant. Donc je me dis que voilà, les dysfonctionnements sont quand même sévères. Bien sûr, j'étais trop jeune, j'avais ni les outils, ni la texture, mais après de nombreuses années, quelques films et beaucoup d'échecs, et je me suis dit qu'il était temps de peut-être penser à quelque chose qui me dépasse véritablement, et donc on a entamé un scénario, mais c'est surtout parce que avant d'entamer le scénario, j'avais trouvé le point de vue. J'avais le point de vue d'un jeune gendarme. Je voulais absolument éviter toute forme de sensationnalisme, éviter toute forme d'aller vers le crapoteux. Ce film n'est absolument pas fait pour ça. C'est vraiment un film d'enquête. Donc le point de vue me paraissait moralement juste.
Alors, Mal d'Aurore est conçu un peu comme un thriller politique, un genre qu'affectionnait le cinéma américain dans les années 70, que ça soit un Pollack, un Pakula ou même un Friedkin avec French Connection. Vous qui êtes un cinéphile, alors vraiment réputé de par le monde, quand vous voyez, quand vous préparez un scénario, est-ce que vous avez des images des films qui vous ont marqué qu'éventuellement vous voulez vous en inspirer ou
Non, alors c'est toujours l'idée du dilemme moral, c'est-à-dire qu'effectivement, pour parler cinéma, c'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un comme Sidney Lumet est quelqu'un qui m'a profondément inspiré dans ce travail-là. Mais encore une fois, c'est dans le travail d'enquête. C'est-à-dire que je voulais suivre le point de vue d'un jeune homme qui s'extirpe de son milieu et qui pense qu'en devenant gendarme, il va pouvoir contribuer à l'effort de justice. Il va se fracasser, en fait, à cet effort-là. Donc effectivement, encore une fois, pour revenir au cinéma, dans mes références, mais même si effectivement, comme tu le dis, je suis un cinéphile avant tout, mais dans ce film-là, j'ai essayé d'éviter en fait beaucoup 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 de choses. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était le dilemme moral. Le dilemme moral, c'est que peut faire un honnête homme dans une société où la justice vacille, où la justice dévisse. Ça paraît simple comme ça, mais c'est une question quand même assez profonde et assez vertigineuse. Il y a une autre question qui est plus friedkinienne, on va dire, qui est la question du mal, qui est la question qu'est le mal, en fait? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est trois dégénérés dans une cave qui font des saloperies à des gamines? Ou est-ce que c'est la guerre des polices, la rétention d'informations, la corruption? Comment le mal se propage? Et donc, sur ces deux questions, que le mal et la justice, qui sont des questions un peu métaphysiques, on a essayé de les inscrire organiquement dans le corps intègre de ce jeune flic qui est Paul Chartier. Et de le mettre, ces questions, à l'intersection, en fait, du parcours de ce jeune flic. Et ça nous apparaissait absolument fascinant. Parce que ce n'est pas un film de revanche, ce n'est pas un vigilante, c'est un film d'enquête, je l'ai dit. C'est un film qui refuse absolument le sensationnel. C'est pas du tout le film que les gens pensent qu'ils vont voir, en fait. C'est pas du tout un film crapoteux. Moi, ça m'intéresse pas de diviser. Je veux fédérer sur ce film. Je veux soigner. Je veux que la population retrouve un peu d'intégrité. Tout ce qu'elle a perdu, ce déni de justice, cette impuissance, cette honte en fait qu'on nous a fait subir.
Mais le bien a quand même difficile à trouver sa place, non?
Sûrement, mais le monde est ainsi fait. Mmh. Alors, par rapport à ce que tu dis, je suis d'accord, mais j'ai peu de certitude, hein, et au plus ça avance, au moins j'en ai. Mais en tout cas, j'ai une conviction. Et ce film, à mon avis, est l'expression de cette conviction. C'est que si... Enfin, la nature des hommes est ainsi faite que des histoires comme ça, il y en aura encore, il y en aura probablement toujours. Mais que s'il n'y a pas de justice qui fonctionne, qui est opérationnelle, et qui est articulée, c'est la barbarie. Il faut une justice qui puisse fonctionner. C'est fondamental. Et cette affaire, cette grande affaire, est l'expression, en fait, de ces dysfonctionnements.
La communauté italienne a une grande importance. C'est vraiment un des personnages clés. Donc, tu as tourné à la mission catholique italienne à la route de Mont-Saint-Martin. Finalement, ces scènes, notamment celles du mariage, m'ont fait penser, tu vas me dire, on va encore parler références, mais au mariage de russe orthodoxe de voyage dans le film de Cimino, que ce soit les Corleone, c'est vrai qu'elle est magnifique, cette scène de mariage. Tu as dû répéter moult fois pour en arriver à avoir une telle mise en scène fluide.
Alors, effectivement, on me parle beaucoup de ces référents. Alors, c'est malgré moi, parce que très franchement, je n'y ai pas pensé de manière consciente, et vraiment, c'est très sincère. Effectivement, de toute façon, tu as raison. On pourrait l'équivalent de Voyage au bout de l'enfer est assez flagrant, même dans la construction du film. Mais ce qui m'intéressait, c'est d'être authentique, c'est-à-dire c'est de profondément être authentique et juste par rapport à un contexte socio-économique.
Choisir le côté documentaire, dès le départ, tu savais que tu allais partir là-dessus?
Oui, parce que je voulais casser avec quelque chose que j'avais beaucoup expérimenté avant. Je voulais...
La réalité magique?
Oui, c'est-à-dire que j'avais envie... Même si le film verse lentement vers une forme d'expressionnisme vers la fin du film, parce qu'on est plus mental, on est dans la tête de Paul Chartier, dans son combat, dans son impuissance. Mais je voulais... Je pense que c'est quelque chose que je vais expérimenter, que je vais pousser probablement plus loin dans les prochains films. C'est que je voulais profondément être juste. C'est pour ça qu'on a cette espèce de mariage homogène entre... Enfin, j'espère homogène entre des comédiens qui sont un peu plus chevronnés, qui sont, on va dire, professionnels, et d'une population qui a été trouvée dans la rue, qu'on a intégrée à ce corpus. Et ça a été un travail d'approvisionnement.
On va y arriver.
Voilà. Ouais. C'était un travail, en fait, il fallait confronter, en fait, ces deux mondes, mais ça s'est très très bien opéré, hein. Mais tu vois, c'était. Par exemple, excuse-moi, tu vas monter tout ça.
Ouais. Ouais.
À la mission catholique italienne, il a fallu. On a rencontré des gens, on a sympathisé avec eux, on a été à la messe, on a bu le café, on a mangé le gâteau. Puis je suis revenu avec les comédiens, on a retourné à la messe, on a rebu le café, on a discuté, et puis ça s'est fait un peu de manière assez organique, en fait. Et d'ailleurs, ils sont tous là dans la salle et j'en suis ravi.
C'est un paradis finalement pour Paul, cette mission, oui. Non ? Et il va y trouver une famille et l'amour, bien sûr.
C'est une promesse de futur, et c'est une promesse d'avenir, c'est une promesse de paradis, tu as raison, de monde paisible, et il va se fracasser au dysfonctionnement, il va se fracasser au mal fragmenté qui change de forme. Et donc tu reviens en question un peu initiale, c'est qu'est-ce qui le fracasse? Et à la toute fin, on a cette Madeleine de Proust, en fait. on mesure ce qu'il a perdu dans l'aventure. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir ces deux gamins, parce que c'est deux enfants. Au début, ils se marient, mais tu vois bien, ils ont 17, 18 ans. Ils sont très, très jeunes. Enfin, ils sont très, très jeunes, vraiment. Et on voit Paul Chartier vieillir à l'écran. Parce qu'il est hanté par ces deux questions que j'ai énumérées précédemment. On le voit profondément marqué par ces deux questions et l'impossibilité d'y résoudre. Et il y résout d'une bien malheureuse manière, d'ailleurs, à la fin, sans spoiler. Mais il y résout parce que il est contraint, à mon avis. Il y est contraint, mais il en accepte absolument toutes les conséquences. Et donc, je pense que l'arc du personnage est assez juste entre un jeune homme impulsif qui va vers un homme, en fait, qui est moins impulsif, qui pose un choix et qui en accepte absolument toutes les conséquences.
C'est vrai qu'à la fin, il assume. Mais le scénario a été coécrit par Domenico de la Porta. Oui. Formation de juriste, on dirait, c'est vrai qu'on a un dossier d'instruction.
Oui. Hein. Oui, alors, Domenico est un nouveau venu, enfin, presque un nouveau venu dans mon dispositif. C'est quelqu'un de très important. C'est un scénariste prodigieux qui m'amène beaucoup, qui m'apporte beaucoup dans le détail, dans sa finesse dramaturgique. Donc, effectivement, il a son bagage, sa formation juridique a été très précieuse pour moi. Tu t'imagines bien pour évoquer en fait cette espèce de fresque parce qu'il y a quand même énormément de personnages, il y a énormément de
notions quand même qui sont traitées. Hein.
Ouais. Donc ça, et Domenico m'a accompagné même pendant toute la production et une grande partie de la post-production. Et je nommerai aussi le travail formidable du monteur Nicolas Nen qui a été très très important dans le dispositif final.
Domenico, avec qui tu es déjà en train d'écrire Caoutchouc, qui concerne le colonialisme à l'époque de Léopold II. Je me demandais, quand on voit la trilogie ardennaise, on a tourné cette page-là, maintenant, Maldoros, c'est peut-être le premier maillon d'un cycle consacré à nos traumatismes nationaux.
Oui, c'est l'idée. C'est l'idée, mais toujours avec un angle, comment je peux exprimer ça, qui n'est pas un angle pour diviser, parce que j'ai vraiment le sentiment profond que pour faire société, et l'affaire du trou est un exemple terrible, c'est que notre société, notre Belgique s'est fracturée encore plus après l'affaire. Et je pense que pour faire société, pour faire corps, pour faire nation, il faut définir les responsabilités, juger les responsables dans le meilleur des cas, et pouvoir enfin avancer. Et Caoutchouc revient sur une période très très douloureuse de la Belgique, qui est absolument inconnue, qui est très très peu étudiée, qui n'est absolument pas commentée, en tout cas de manière populaire, qui est les 20 ans de règne de Léopold II dans l'État indépendant du Congo, avant la rétrocession du Congo au capital belge, on va dire, parce que on dit souvent que c'est la Belgique, mais je pense que c'est plus le capital belge. Et donc c'est toutes les exactions que Léopold II et son entourage ont opéré en pleine exploitation caoutchoutière à l'époque où Dunlop invente le pneu et où le monde industriel demande à corps et à cri du caoutchouc. Et donc je pense que c'est un sujet qui n'a jamais été abordé et qui va être fascinant à affronter. Et puis nous avons en tête un troisième volet qui se portera sur le rexisme et sur De Grelle et toutes donc la Légion wallonne qui est partie combattre en portant l'uniforme allemand, qui est partie combattre sur le front de l'Est.
Tu t'entoures de gens que tu connais bien, avec qui tu as travaillé, tant au niveau de la musique avec Vincent Caillé qu'au niveau de la photo avec Manu Dacos. Des comédiens aussi, Laurent Lucas, Jacques Berroyer, David Murgia, Béatrice, Mélanie. Est-ce que c'est rassurant ou en même temps c'est parce que tu sais que tu peux exiger davantage?
Non, de toute façon, je pense que tu me connais un petit peu. Je suis un metteur en scène très exigeant, mais je travaille toujours je travaille sans conflit. Je travaille en bienveillance, en collaboration, vraiment. Et après, c'est une troupe, c'est-à-dire que je viens du théâtre, moi. J'aime bien travailler avec les gens que. C'est plus simple de travailler avec des gens qu'on estime et qui sont intelligents. c'est très confortable, mais en même temps c'est pas confortablement bourgeois. C'est-à-dire que c'est confortable, mais on peut aller plus loin. C'est-à-dire que c'est des gens avec qui j'ai une intersection, avec qui je partage une passion, avec qui je sais que je peux explorer, que je peux discuter, que je peux aller loin. Et ça, c'est rare. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai suffisamment traversé de. On sait ce que c'est le cinéma, donc j'essaie de me préserver parce que parfois c'est compliqué. Donc travailler avec des gens intelligents, c'est toujours mieux.
Dans les remerciements à la fin du générique, outre notre ami Philippe Reynard, tu cites Tobe Hooper.
Oui.
Tu peux expliquer un petit peu?
Parce que Tobe Hooper est un metteur en scène fondamental pour moi, probablement le fondamental qui est le metteur en scène qui est à l'origine de ma vocation de cinéaste. C'est sûr que j'ai toujours aimé le cinéma d'exploitation, un indigent, je ne sais pas ce que ça veut dire, je dirais plutôt exploitation. Donc j'étais un boulimique de cassettes VHS quand j'étais gamin. Je voyais beaucoup, beaucoup de choses de manière compulsive, comme je fais toujours d'ailleurs, mais c'est sûr que quand j'ai vu Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, il y a un tournant qui s'est opéré dans ma vie. Ça a été, il y a eu L'Exorciste de Friedkin. C'est deux films qui ont été vraiment très, très importants pour moi et qui ont changé en fait ma manière d'envisager de faire du cinéma. Là-dessus, je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. Et je pense que je ne me suis jamais remis de Massacre à la tronçonneuse parce que je cherche toujours cette expression-là, ce malaise-là, cette ambiance-là. Il y a quelque chose qui est profondément viscéral et organique dans ce film-là de Tobe Hooper et que j'essaie toujours de retrouver quand je fabrique moi-même du cinéma.
Encore une personne que tu remercies, Benoît.
Oui, que je vais retrouver.
Au départ, il était.
Oui, mais voilà, disons que pour des raisons de calendrier, on va dire, ça ne s'est pas opéré, mais je le retrouverai très très vite, très prochainement.
Fabrice, un grand merci. Donc, on rappelle Madoro qui sort le 22 janvier, et dès à présent, on peut annoncer que tu vas revenir à Charleroi pour une autre avant-première.
Ok, 10.
Merci.
Merci.